magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le dérèglement climatique, l'engouement des jeunes pour l'activiste suédoise Greta Thunberg, l'effondrement de l'axe droite-gauche, tout concourt à faire des Verts une force politique incontournable. Les écologistes sont 40% de plus depuis les dernières élections au Parlement européen. Mais où se situe-t-il sur l'échiquier traditionnel, progressiste ou conservateur? En Espagne, c'est curieusement l'extrême droite qui a tenté de verdir son discours lors des dernières législatives, notamment en soutenant la chasse, la caça mayor, comme disent les Espagnols, la chasse au gros, une chasse de privilégiés mais qui revendique sa contribution à l'écologie. C'est le reportage en Extrémadure, au sud-ouest de l'Espagne, signé Diane Cambon.
Au bord de la rivière de Cuartos, qui descend de la Sierra de Gredos, au nord de l'Extrémadure, Enrique scrute le paysage rocheux où vivent le fameux Macho Montes. C'est le bouquetin ibérique, une sorte de très gros chèvre dont les cornes en forme de lyre constituent un trophée très recherché. D'ici trois semaines, ce propriétaire d'une immense réserve de chasse va embarquer la première expédition de chasse de la saison. Ce qui représente une manne financière non négligeable.
Un grand bouquetin peut coûter entre 12 et 14 000 euros. Il y a deux ou trois bêtes comme ça par an sur les 200 animaux de la réserve. Toute la rentabilité réside dans le trophée.
Ce sont des mâles, en général âgés de 15 ans. C'est la tête avec les cornes qui est très recherchée, comme le confie Rossé, garde forestier qui accompagne les chasseurs, et désigne l'animal qui peut être abattu.
Les chasseurs viennent de partout, beaucoup d'étrangers, des Américains, des Français, Anglais et même des Russes. Ce sont des gens avec de l'argent, c'est sûr, car un bouquetin médaille d'or, c'est très cher.
Pour Julio, conseiller indépendant en gestion environnementale, la chasse au gros gibier, désignée sous le nom de caza mayor, littéralement la grande chasse, n'est rien d'autre qu'un immense business réservé à une élite.
La chasse mineure est vraiment ancrée dans les traditions rurales et elle est dépourvue d'idéologie politique, ce qui n'est pas le cas de la chasse majeure, qui fait appel à un standing élevé. Elle demande beaucoup d'argent et elle est associée à des secteurs du pouvoir politique et économique. Si on faisait un sondage auprès de ces chasseurs, on n'aurait pas beaucoup de communistes. La chasse au gros gibier rapporte beaucoup d'argent, c'est tout.
Lorsque se termine la saison de la chasse, les villages situés au sein de la réserve se répartissent une partie des bénéfices. La région touche également une part du gâteau à travers la vente des permis de chasse. Beaucoup de restaurateurs et hôteliers profitent aussi de ces visiteurs fusils au bras. Et sans l'activité cynégétique, Enrique ne pourrait pas entretenir les milliers d'hectares de sa réserve privée.
Il n'y a plus d'éleveurs et donc ce serait une immense broussaille cette montagne si on ne chassait pas. Et pour moi, cela représente un revenu important. Et puis c'est vrai que la chasse permet de maintenir une bonne gestion de l'environnement.
Alors que la chasse commence à avoir mauvaise presse auprès d'une partie de l'opinion sensible au discours écologique, les chasseurs se présentent comme les sauveurs du milieu naturel, ce qui irrite particulièrement Julio, biologiste de formation.
C'est totalement faux. La chasse majeure ne constitue pas un système de gestion des ressources naturelles. Il y a d'autres moyens de réguler la nature, notamment en privilégiant les prédateurs naturels.
Pour Javier, tenancier d'un bar et chasseur durant ses temps libres, pas question de laisser la nature gérer seule la nature. La chasse a un rôle à jouer.
La chasse au gros gibier est bien plus nécessaire que celle de la perdrix, par exemple, car il faut contrôler le nombre de bêtes de chaque espèce, sinon les animaux risqueraient de se multiplier et il y aurait des risques de maladies. La chasse a du sens pour gérer le milieu rural et certains politiques qui ne connaissent pas ce milieu pensent que nous tuons pour tuer. Mais ce n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la faune et la flore et le seul qui est capable d'apporter cet équilibre à la faune, c'est le chasseur.
Un discours que le parti d'extrême droite Vox s'est empressé de récupérer aux élections législatives de l'an dernier pour gagner des voix dans le milieu rural, mais qui est accueilli avec beaucoup de prudence par les spécialistes de ce secteur, comme Enrique, propriétaire d'une réserve de chasse.
Si le discours est sincère, eh bien moi, je trouve cela très bien, que l'on défende la chasse comme tradition espagnole. Mais la chasse va au-delà du clivage droite-gauche. Ici, où les socialistes gouvernent depuis 40 ans, la chasse est très bien vue. Égare à celui qui veut l'éradiquer, il risque de se confronter à de gros problèmes sociaux.
Le poids de la tradition et surtout les intérêts économiques autour de la chasse rendent encore difficile la prise de conscience écologique. Encore trop récupérée à des fins politiques. We're going green. We're going green. We're gonna take care of the earth, we're going green.
Et en Italie, les Verts sont quasi absents du débat politique. La grande question reste l'économie et la fracture nord-sud. Mais les jeunes commencent à changer la donne. Ils manifestent nombreux lors des traditionnels Fridays for Future. De quoi inquiéter la droite. Un jeune penseur conservateur n'a pas l'intention d'abandonner l'écologie à la gauche. Il vient donc de publier un plaidoyer intitulé « Conserver la nature ». Franceline Beretti l'a rencontré.
L'auteur, c'est Francesco Giubilei, jeune prodige conservateur et catholique de 28 ans, déjà à la tête d'une maison d'édition et d'un think tank. Il veut fournir une vision politique de long terme à toute la droite, de l'extrême droite au centre, et l'environnement est pour lui le sujet à ne pas rater. Mais sa conviction n'est pas tellement partagée, alors, pour la vendre, il rappelle que la victoire passe par là. Francesco Giubilei.
La droite n'a pas encore compris le potentiel de cette thématique environnementale du point de vue politique. Regardez ce qui se passe au niveau européen. Chez vous, en France, les Verts ont gagné des villes comme Lyon ou Bordeaux, qui sont des villes importantes. En Allemagne, les Verts font 20% aux élections européennes. Mais en Italie, il n'y a pas véritablement de parti écolo. Pourtant, si on regarde les élections législatives de 2018, on constate que le mouvement 5 étoiles obtient de très bons scores, jusqu'à 40-50% par endroit, surtout dans le sud, grâce à la question environnementale. Donc, si dans les prochaines années, la droite ne parvient pas à récupérer ce thème, elle risque de perdre des millions de voix, parce que l'environnement va être de plus en plus central pour les nouvelles générations.
Avec son livre, Francesco Giubilei espère enfin réveiller son camp.
Et comment convertir la droite italienne à l'environnement ?
Sa démonstration repose sur une idée principale, l'environnement est central dans l'histoire de la pensée conservatrice. Car qui dit environnement dit nature, et la nature est intimement liée à l'identité.
Lorsque nous parlons d'identité italienne ou d'identité européenne, on fait référence à l'histoire, aux traditions, à la culture de notre nation ou de notre continent. Cette identité a donc ses racines parmi les penseurs, les auteurs du monde classique. Si par exemple on regarde les Bucoliques de Virgile, on voit que c'est une œuvre dédiée à la nature. Pareil pour Pascal Léopardi, où en peinture il n'y a qu'à prendre Léonard de Vinci et sa Vierge au Rocher, qui lie un concept catholique à celui de la nature. Or, toutes ces œuvres font partie de notre identité.
Pour résumer, notre identité, c'est la culture classique. La culture classique est imprégnée de nature, donc la droite qui défend l'identité doit aussi défendre la nature.
Et Franceline, vous l'avez trouvé convaincant ?
Alors, son livre est très riche en références, mais il part dans tous les sens. Car en fait, Giubilei ne définit à aucun moment ce qu'est pour lui l'environnement. Et pourtant, c'est fondamental, vu son ambition. Du coup, il mélange écologie, environnement, nature, beauté des paysages, sans que l'on sache concrètement sur quelles batailles environnementales la droite pourrait se lancer. Il y a quand même quelques ennemis bien définis, les taxes, et Greta Thunberg. Francesco Giubilei s'attaque à tout ce que représente son mouvement.
Le problème aujourd'hui, c'est que derrière la thématique environnementale, on risque de faire passer des messages qui en réalité n'ont rien à voir avec l'environnement. Greta Thunberg vient de la Suède, pays que l'on connaît pour ce qu'on appelle le modèle scandinave. Un modèle qui fonctionnait dans les années 70-80, mais aujourd'hui, la Suède est une nation sans aucune identité, à cause de la promotion du multiculturalisme. La police ne peut plus entrer dans certains quartiers de Stockholm. À Malmö, il y a des émeutes en permanence. Greta Thunberg représente cette vision du monde. Je vous donne un exemple raconté par quelques jeunes lors de la présentation de mon livre dans un village près de Bari, en Italie. Ces jeunes décident d'aller aux manifestations Fridays for Futures. Ils ont 16, 17 ans et ils ne sont inscrits à aucun parti. Ils lisent les règles du rassemblement et voient qu'il est interdit d'apporter des symboles politiques. Donc ils viennent avec le drapeau italien. Et aussitôt ils se font interpeller par les organisateurs. « Vous devez enlever ce drapeau italien. »« Mais et pourquoi ?» répond-il. « Parce que c'est un symbole qui divise. L'environnement est une problématique globale, pas nationale. »« Oui, d'accord, disent les jeunes, mais on est en Italie. » Voilà, ça c'est représentatif d'une approche qui conçoit l'environnement comme une thématique globale et non locale.
Or, la défense de l'environnement ne peut venir que du local, pour lui, des communautés. Elles savent mieux que la gauche globalisée et l'Union européenne ce qui est bien pour elles. Là encore, c'est théorique, mais ça ne montre pas les projets concrets sur lesquels devrait s'engager la droite italienne. Le jeune intellectuel espère maintenant faire émerger le débat dans son camp.
Merci Franceline Beretti, à très bientôt. Nobody likes it, everybody hates it. And so we must proceed. Ecology Now. Ecology is glamorous. Ecology Now. And it's for everyone. Ecology Now. It's good for the economy. Ecology Now. En France, tout comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, les Verts ont le vent en poupe. Pour preuve, après la conquête de plusieurs mairies emblématiques de l'Hexagone, ils viennent de constituer leur premier groupe dans la très conservatrice chambre du Sénat. Mais sur le terrain, l'écologie doit aussi prouver qu'elle s'intéresse aux quartiers populaires. Juliette Rangeval s'est rendue à Cergy, dans la banlieue nord de Paris, rencontrer des médiateurs sociaux. Pour une fois, on ne leur demandait pas de résoudre des conflits de voisinage, mais de travailler lors d'un atelier sur la gestion des déchets.
Pour les fêtes de l'environnement,
bonjour, bienvenue.
C'est une forme d'écologie très loin des poncifs sur les bobos, les végétariens et les amateurs de quinoa. Dans ce petit immeuble de bureau, à côté de la gare de Cergy-Saint-Christophe, dans la grande banlieue nord de Paris, Anne Dielman, de l'association Nature et Société, est venue avec des déchets recyclés, des canettes, du plastique et de vieilles cassettes audio. Une manière d'entamer le dialogue sur la question des déchets, question particulièrement sensible dans les grandes cités parisiennes.
J'ai toujours été dans des quartiers très multiculturels, multirégénérationnels, très mixés au niveau aussi possibilités financières. Et en fait, c'est là qu'il y a besoin de nature, que les gens y s'émerveillent, que les gens y découvrent, que c'est complètement nouveau pour eux. Beaucoup plus que dans des endroits où les gens ils y vont tous les jours dans la forêt, chercher les champignons, voir un chevreuil, écouter le brame du cerf.
Donc là, vous allez coller à chaque fois les composants.
Face à elle, une équipe de médiateurs sociaux travaillant pour Proméville. Ce sont des professionnels auxquels les municipalités ou la SNCF font appel pour gérer les conflits, éviter les dégradations dans les halls d'immeubles, sensibiliser aux règles du confinement et désormais défendre l'environnement. Pour bien répondre aux questions des habitants, il faut bien comprendre les enjeux. Alors ce jour-là, un petit groupe fabrique un quiz sur la composition des téléphones portables, pendant que d'autres observent à la loupe les insectes qui vivent dans le compost. Mais plus prosaïquement, d'Evry à Malakoff, le grand problème, ce sont les encombrants laissés sur les trottoirs, comme l'explique Thierry Thiamène, il est chef d'équipe à Evry.
Aujourd'hui, nous avons des fois des dépôts sauvages que nous trouvons soit au bas des immeubles, soit des fois sur des trottoirs. Et des fois, c'est des mélanges, parfois de plusieurs produits. Parfois, vous allez voir au sein d'un même bâtiment des personnes qui descendent des objets en bois, des vieux meubles, d'autres qui descendent des produits toxiques, chimiques, et qui ne cherchent pas à savoir est-ce que le fait de le déverser comme ça sur la place publique, cela pourrait éventuellement causer un danger pour la santé et la sécurité des autres usagers.
Sambambay travaille, lui, à Malakoff. Cette formation lui permettra plus tard de dialoguer avec les habitants des cités parce que pour lui, l'enjeu, c'est l'éducation et la responsabilisation.
Les encombrants, c'est une problématique dans ces cités-là. Ils jettent n'importe comment sans respecter. Pourtant, il y a des dates où ils doivent sortir les encombrants, mais ils ne respectent pas. Et du coup, j'avais parlé avec les gardiens, ils disent que depuis des années, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. On le fait parce que tout le monde le fait. Et c'est pas normal. Il y a de la pédagogie qui doit être faite à ce niveau-là. Il faut comprendre la problématique dans ces villes. Il y a beaucoup de logements sociaux et les gens pense que c'est au bailleur de tout faire et c'est pas de le faire.
Alors, est-ce que la cause, ça serait plutôt quoi, du coup? C'est qu'ils savent pas où mettre
Non, ils savent, en général, ils connaissent les dates de ramassage et normalement, c'est à la veille qu'on doit déposer, mais c'est tout le temps comme ça.
D'autant que le mouvement qui s'amorce va encore s'amplifier, selon Augustin Jacquet de Proméville.
C'est des questions qui viennent de plus en plus et je pense que les mairies commencent à s'y intéresser de plus en plus parce que il y a des lois qui vont tomber de plus en plus. Ça va être fédérateur dans le sens où les gens vont vouloir travailler qu'avec des gens qui sont engagés environnementalement et ça va devenir une obligation. Même si c'est pas dans nos valeurs, ça va devenir une obligation pour continuer de travailler avec les autres. Et donc je pense que les mairies vont devoir forcément s'y mettre. Déjà avec les accords de Paris qu'ils ont pris où on a des objectifs qu'il faut atteindre. Donc il y a un côté politique qui est quand même important.
Les politiques ne s'y trompent pas. Ils sont à gauche de plus en plus nombreux à s'emparer de la question et à traverser le périphérique pour lier urgence sociale et urgence écologique. Difficile de passer à côté de ce petit chef-d'œuvre documentaire, Honeyland, l'histoire d'une apicultrice en Macédoine, a remporté le grand prix du prestigieux festival Sundance. Il est nominé 2 fois pour les Oscars. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il raconte de manière poétique la communion d'une femme avec ses abeilles et la nature, les montagnes désertiques de Macédoine. Notre correspondant Louis Seyé a été conquis.
Il ne faut pas avoir le vertige pour suivre Hatice sur les lignes de crête des montagnes de Macédoine du Nord. Toujours habillée en jaune, cette quinquagénaire à la silhouette de jeune fille vit dans l'un de ces hameaux dépeuplés et isolés des confins balkaniques. Sans eau ni électricité, entourée par la neige et les loups en hiver, Hatice est une apicultrice à l'image des étendues qui l'entourent. Elle récolte son miel selon des méthodes ancestrales auprès de colonies d'abeilles sauvages. Avec ses protégés, elle a noué une relation unique. Sans gants ni combinaison, elle leur parle, elle chante et danse autour des ruches. Elle fait surtout attention lors des récoltes à ne prendre qu'une moitié du miel et laisser l'autre moitié aux abeilles. C'est en voulant filmer une rivière du centre du pays que les réalisateurs macédoniens Tamara Kotevska et Lyubomir Stefanov ont fait la rencontre de Hatice et son étonnant rapport à la nature. S'en suivent 3 ans de tournage dans des conditions rudimentaires et plus de 400 heures de film. Un temps long qui permet à la caméra de capter la gestuelle fascinante de cette femme aux abeilles, tout comme la beauté majestueuse des paysages. Le charme intime des scènes du quotidien est aussi superbement rendu grâce à un éclairage entièrement naturel qui fait la part belle au soleil comme à la bougie. Farouchement indépendante, Hatice n'en est pas moins une fille dévouée et c'est loin du confort de la ville qu'elle s'occupe chaque jour de sa mère infirme qui ne sort plus de leur petite maisonnette. Honeyland est un documentaire poétique qui interroge surtout la relation de l'homme avec son environnement naturel. Au premier jour du printemps, comme chaque année, le quotidien de Hatice est en effet chamboulé par l'arrivée de la caravane d'une famille d'éleveurs semi-nomades. La cohabitation entre cette famille nombreuse et l'apicultrice est faite de partage avec les enfants, mais aussi de conflits. L'équilibre précaire que cherche à préserver Hatice avec les abeilles est ainsi mis à mal lorsque le père décide de se lancer lui aussi dans l'apiculture, mais avec des méthodes bien plus modernes. Documentaire à l'apparence de fiction, Honeyland et son univers lumineux invitent à un voyage aussi bien dans l'espace que dans le temps. À travers la figure quasi mythologique de Hatice, le bourdonnement des abeilles sauvages de Macédoine nous fait réfléchir à notre passé comme à notre avenir.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et on se retrouve dès demain.